TSF Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran.
Aujourd'hui, Soul Makossa, la soul africadélique de Manu Dibango. L'histoire commence au Cameroun en 1972.
Je déclare ouvert les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football.
Cette année-là, entre Yaoundé et Douala, se joue la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN.
L'égalisation togolaise, Wabi Batou.
Et Joseph, vous le savez, a placé une tête. Mais alors là, une de ces têtes qui a battu, cette fois le gardien de but de Tommy.
Un trophée remporté par le Congo au détriment du Mali. Le pays hôte, le Cameroun, se contentant d'une très honorable 3e place malgré une défaite cinglante en demi-finale.
Oui, le 3e but congolais, le 3e but congolais, Vincent Pelé, 3 pour la République populaire du Congo, applaudissez peuple congolais.
L'eau de consolation pour les Camerounais, l'hymne officiel de la compétition qui fait leur fierté. Une marche composée par un musicien né à Douala 39 ans plus tôt, Manu Dibango. Papa fonctionnaire et pasteur, maman couturière et directrice de chœur à l'église, Manu Dibango découvre le jazz au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son In the Mood de Glenn Miller, que les marins amènent à bord de leur bateau et que les jeunes du quartier s'amusent à détourner en y posant leurs propres paroles. Le Cameroun est alors sous administration française, une colonie, et voilà ce qui pousse les Dibango à envoyer leur fils faire ses études en France. Manu a 15 ans lorsqu'il débarque au port de Marseille en 1949, l'attend ce qu'on appelle alors un correspondant, c'est-à-dire quelqu'un qui va le prendre en charge et le loger moyennant pension. En l'occurrence, l'adolescent échoue chez un instituteur de la Sarthe au look austère qu'il paye pour les premiers mois avec un sac de 3 kilos de café. Une denrée extrêmement rare en France à une époque où l'on paye encore le pain avec des tickets de rationnement. Sarthe à Léopoldville, en passant par les clubs congolais de Bruxelles, la trajectoire de Manu Dibango sera celle d'un musicien curieux de tout. Banjo, mandoline, orgue, saxophone. Un type qui fait le métier, de Pigalle au club Saint-Germain, des tournées avec Dick Rivers, à ce petit studio de la gare de l'Est, où un jour, Nino Ferrer l'appelle pour intégrer son orchestre. Et c'est en 1969, au plus fort du mouvement d'indépendance des pays africains, et alors que la musique du continent commence à résonner un peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, que Manu Dibango va renouer avec le Cameroun. composé avec le grand Francis Bébet, cette chanson Idiba connaît un succès monstre au pays. Pour Manu Dibango, qui est au vibraphone, Idiba, comme il le dira dans ses mémoires, constitue sa seule véritable histoire d'amour avec le Cameroun. Devenu une personnalité, le saxophoniste est donc en pole position pour écrire le fameux hymne de la Coupe d'Afrique des Nations 1972, un 45 tours que le gouvernement camerounais distribuera gratuitement dans tout le pays, et sur la face B duquel, Manu Dibango va enregistrer un morceau qu'il vient tout juste de composer et qui sonne comme ceci.
Sonne le jazz. David Copéran sur TSF Jazz.
Aujourd'hui, Soul Makossa, la soul africadélique de Manu Dibango.
On a un très bel exemple ce soir de la chanson française qu'on a exportée. C'est, je vais vous raconter l'histoire. C'est un garçon qui s'appelle Manu Dibango qui joue du saxophone à Paris depuis très longtemps, qui est connu de tous les musiciens. Et il a fait un jour un disque pour son Cameroun natal et pour exactement une équipe de football. Et les Américains sont tombés fous de cette musique. Et finalement, on a exporté de la musique typiquement française. Et vous allez pouvoir le constater, Manu Dibango.
De la musique typiquement française, clame un Michel Fugain qui n'a visiblement pas froid aux yeux. Nous sommes sur les ondes de l'ORTF en 1973, et là où Fugain a entièrement raison, en revanche, c'est que Soul Makossa s'est propagé telle une traînée de poudre jusqu'aux États-Unis. Dans la revue Billboard, on apprend, je cite, qu'un single de soul importé, Soul Makossa, se négocie entre 2 et 3 dollars chez les disquaires new-yorkais grâce à son succès exponentiel auprès de la communauté noire. La demande est telle qu'un marché noir s'est développé. Un raid des autorités a permis de saisir 1500 copies présumées pirates de Soul Makossa, des étiquettes de disques et un master, ainsi que l'arrestation d'un patron de label. Au départ, pour Manu Dibango, le succès de Soul Makossa aux États-Unis est un mystère, car la chanson n'y est même pas distribuée officiellement. On faisait des balles à Paris, au Chevalier du Temple, dans le Marais. On n'était même pas au courant qu'on était numéro un là-bas. Jusqu'au jour où Ahmet Ertegun, le patron d'Atlantique, débarque en personne dans une grosse limousine, un contrat à la main. C'est lui qui a dégainé le premier, mais on raconte que la Motown était aussi sur les rangs. Passé l'effet de surprise, ce succès est aussi un symbole. Dibango, celui qui avait l'œil rivé sur le Black Power, la Soul et le son d'Isaac Hayes, est en passe de conquérir les États-Unis. Et ce n'est pas un hasard si Soul Makossa est aussi inspiré par les productions américaines. On avait du mal à avoir l'afterbeat très fort, comme ils font là-bas, confiait Manu Dibango à Jean-Michel Proust dans Jazz Story sur TSF Jazz. Alors, on a ajouté une deuxième partie de batterie en re-recording. Une partie beaucoup plus axée sur la grosse caisse. Il y a donc deux pieds qui jouent le beat, en léger décalé. La suite, on la connaît. Les tournées aux États-Unis, le concert à l'Apollo de Harlem devant Barry White et Aretha Franklin, un titre qui devient l'hymne d'une communauté et d'une génération, sans oublier la bataille judiciaire à venir contre Michael Jackson et d'autres qui sampleront sans vergogne Soul Makossa. Ce rythme irrésistible, créé par Manu Dibango et ses potes, dans un petit local d'un quartier de Douala, devant une ribambelle de gamins hilar, un beau jour de 1972. Soul Makossa, Manu Dibango a créé un son panaché de soul, de funk, de guitare wah-wah, de percussions et de rythmes africains. Sollicité par Mondiaphone, un label de librairie musicale, on appelle ça aussi la musicomètre, pour illustrer les émissions de radio ou de télévision, Papa Groove va enregistrer coup sur coup deux albums magnifiques, African Voodoo et Africadelic. Ce dernier étant réédité en ce moment en vinyle, dans une édition luxueuse chez Digger's Factory. Pensé comme un digest de funk et de musique africaine, Africadelic est enregistré en 1972 au studio Pathé Marconi de Boulogne-Billancourt, là où l'Art Ensemble of Chicago a mis en boîte les Stances à Sophie et où Julien Clerc enregistrera quelques mois plus tard son nouvel album. On ne pouvait pas rester plus de deux minutes dans la minuscule cabine d'enregistrement tellement il faisait chaud, raconte Manu. Chaque musicien devait passer l'un après l'autre pour poser sa ligne. Impossible de respirer autrement. Effectivement, la musique de Manu Dibango était beaucoup trop chaude. Et au début des années 70, le temps d'une poignée d'albums et du succès surprise d'un 45 tours, il pouvait s'enorgueillir d'avoir placé l'Afrique tout là-haut sur la carte de la musique moderne.